L'invité de France Inter est Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, délégué général de La République En Marche. La parole aux auditeurs d'Inter. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors donc moi j'aimerais remercier M. Castaner et ses amis au nom de ma mère qui est en EHPAD et qui n'est plus capable de le faire elle-même actuellement. Donc de le remercier d'avoir amputé sa pension d'aide-soignante, donc on parle d'EHPAD, on parle d'aide-soignante, donc on est au point de l'actualité, donc d'avoir amputé sa pension de 20 euros, j'ai constaté ce matin, sur les 1300 de sa pension, alors que les mensualités de l'EHPAD s'élève à 1700 euros. Donc un grand merci surtout pour cette belle mesure de justice sociale qui contribue à équilibrer les cadeaux faits aux personnes qui ne paient plus l'ISF. Si elle était capable de se rendre compte, je pense que ma mère serait vraiment très fière. Donc un grand merci, Monsieur Castaner.
Merci à vous, Christian. Christophe Castaner vous répond.
Je ne sais pas si Christian est encore en ligne. Peut-être il peut nous indiquer de
combien, il est en ligne.
De combien son salaire a été augmenté à la fin de ce mois.
Pardon ?
De combien votre salaire vous êtes
Vous êtes salarié.
Bon, alors, mon salaire à moi, parlons-en. Donc je suis également retraité. Et donc, on nous a parlé d'une baisse d'1,7%. Donc j'ai constaté que ce n'était pas 1,7%. Vous faites bien d'en parler parce qu'en fait, c'est plutôt de l'ordre de 2%. Parce qu'on est sur le brut, on parle beaucoup de ce 1,7%, donc 2%. Donc merci de m'avoir permis de préciser les choses.
Christophe Castaner vous répond, Christian.
Donc Christian est retraité, mais tous les salariés de France, ce mois-ci, ont vu une augmentation de leur salaire, qui effectivement est financée par un impôt qui est plus juste, la CSG. Parce que la CSG, elle porte sur l'ensemble des revenus, y compris sur les revenus du capital.
Il parle de sa mère en EHPAD. Là,
oui, hein. Alors je vais parler de sa mère. Il faut avoir en tête qu'effectivement, elle a pu connaître une baisse qui de toute façon est compensée. Je ne connais pas le GIR, excusez-moi d'être technique, mais qui est pris en charge. Il faut savoir que l'accueil en EHPAD coûte à peu près 42 000 euros par an pour une personne qui est accueillie. C'est 114 euros par jour. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la solidarité nationale, elle bouge, elle est là, celle des départements, celle de l'État, qui permet justement à la maman de Christian d'être accueillie alors qu'elle a juste, j'entendais, un peu moins de 1 200 euros de pension. C'est ça la réalité de la solidarité nationale. Et donc, de toute façon, ce n'est pas la question de ce qu'elle touche chaque mois qui fait qu'elle peut être accueillie en EHPAD. C'est la solidarité nationale. La solidarité nationale a un coût et elle est notamment financée par la CSG. Je suis désolé, ça peut paraître brutal ce que je dis. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de voir que d'un côté, vous avez une augmentation de 250 millions d'euros, de 210 millions d'euros du budget de l'État en faveur des EHPAD. Et qu'effectivement, à un moment donné, il faut une ressource pour cela. Ça s'appelle l'impôt, ça s'appelle la CSG. Mais nous considérons aujourd'hui, et c'était un engagement qu'avait pris Emmanuel Macron, il l'avait annoncé le 10 décembre à Paris, à Bercy, dans un meeting, qu'il y aurait une augmentation pour un peu plus de 50% des retraités de 1,7% de la CSG et que tous les salariés de France, du SMIC jusqu'au gros salaire, auraient une augmentation de salaire beaucoup plus importante. C'est tout l'enjeu que nous faisons, c'est un enjeu de pouvoir d'achat.
La parole à Denis, qui est avocat, je crois. Bonjour Denis, bienvenue.
Bonjour, bonjour France Inter, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Hier à l'Assemblée Nationale, le ministre du Droit de la Femme, Madame Schiappa, a dit à propos de l'affaire Daval, et ses propos que j'ai relevés sur un site d'information, ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un crime, c'est un assassinat. Elle répondait ainsi aux arguments des avocats de la défense de M. Jonathan Daval. Le gouvernement n'est-il pas choqué parce qu'il ressemble à s'y méprendre à une intervention de l'exécutif dans une affaire judiciaire? On peut même dire, si on avait mauvais esprit, une pression, une interférence. Puisque Mme Schiappa va jusqu'à revendiquer une qualification juridique, celle de l'assassinat, qui n'a pas été retenue d'ailleurs par le juge d'instruction. Et par ailleurs, est-ce bien le rôle d'une ministre de répondre à un avocat dans un dossier ? Est-ce qu'un ministre n'a pas une mission d'intérêt public plus général ?
Merci Denis pour cette question. Christophe Castaner ?
Je vais répondre à la question, mais en présentant que ça n'était pas à l'Assemblée nationale, je crois que c'était dans un échange avec des journalistes. Ça n'était pas dans le cadre de l'Assemblée. Mais moi je comprends la question de Denis, un ministre n'a pas à commenter une affaire judiciaire.
Donc elle a fait une erreur, Marlène Schiappa ?
Je n'ai pas à juger si elle a fait une erreur. Nous n'avons pas à commenter une affaire judiciaire. Par contre, je peux vous dire que comme homme, je suis choqué qu'on puisse tenter de justifier, et je ne parle pas de cette affaire, permettez-moi d'avoir un propos un peu général, qu'on puisse justifier de l'assassinat de sa compagne, de sa conjointe, de son conjoint, peu importe, au motif qu'il aurait mis la pression sur l'homme qui se serait senti obligé d'assassiner sa femme. Quelque part, ça peut surprendre. Mais une chose est sûre, c'est que dans un cas particulier, nous n'avons pas à commenter une affaire judiciaire.
Et l'assassinat n'a pas été retenu dans cette affaire-là, c'est le meurtre.
C'est pour ça que moi je ne commente pas cette affaire.
Voilà. Allez, on retourne au standard où nous attend un membre du conseil d'administration de Radio France, qui a bien le droit d'appeler le 01 45 24 7000, Jean-Paul Quenson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien et syndicaliste aussi à l'intérieur de la maison.
Exactement, et présent depuis quelques décennies. Et c'est ça qui aujourd'hui suscite, je crois, cet attachement à une entreprise comme Radio France, alors même que notre entreprise enregistre des résultats historiques en termes d'audience, de satisfaction des auditeurs, donc tant sur la qualité de ses contenus que de l'indépendance de son information, que cette société, l'ensemble de cette société de ses salariés, en dépit de contraintes budgétaires toujours plus fortes, honore, je crois, dignement les missions de service public qu'il faut rappeler, éduquer, informer, distraire, divertir. On parle maintenant de Big Bang. Alors moi, je souhaiterais connaître quelles sont les véritables motivations qui se cachent derrière cette ambition de Big Bang. Précision également, nous ne sommes pas budgétivores dans la mesure où Radio France suit sa ligne de route, sa fiche de route, à savoir que le retour à l'équilibre est désormais une réalité dans cette entreprise. Donc, quelles sont les motivations?
Merci Jean-Paul pour cette question. Christophe Castaner vous répond.
D'abord, personne ne veut faire un Big Bang pour faire un Big Bang. Par contre, on peut légitimement s'interroger pour savoir si l'audiovisuel public, dans sa globalité, que ce soit France Inter, Radio France, et je comprends votre attachement, c'est le mien aussi, à Radio France et à France Inter. Mais on peut s'interroger sur le fait de se dire qu'aujourd'hui, il y a 3,9 milliards d'euros qui sont injectés dans l'audiovisuel public, tout compris, et qu'à un moment donné, il faut se poser sur la table pour voir si on a su prendre tous les virages, y compris celle du numérique, etc. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a des bons élèves et des mauvais élèves. Je ne suis pas compétent sur ce sujet et je ne suis pas légitime pour vous dire cela. Ce que je sais, c'est que, comme auditeur, on va dire, du service public, et je ne veux pas dire de tel ou tel média en particulier,
de France Inter.
Moi, j'ai toujours été fier et heureux d'écouter France Inter, et donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un Big Bang particulier, mais par contre, il faut assumer de s'interroger régulièrement quand un budget de presque 4 milliards d'euros d'argent public est mobilisé dans l'audiovisuel public.
Léa ?
Vous avez entendu à 7h50 la présidente de la commission culture du Sénat, Catherine Morin-Desailly. Elle est très claire. Elle dit la chose suivante. Elle propose que le successeur de Mathieu Gallet ne soit pas nommé directement par le CSA, puisque de toutes les manières, dans la future réforme, vous allez lui retirer cette prérogative-là. Et que on en profite pour aller vite, dit-elle, et créer une holding avec un seul président pour tout l'audiovisuel public. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas?
Alors, c'est un vrai sujet de discussion, mais la discussion elle est en cours, elle n'est pas tranchée. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une loi qui s'applique. Et je suis ministre en charge des relations avec le Parlement, je peux vous dire que je ne suis pas capable de faire une loi en un mois. Techniquement, on ne sait pas faire. Il faut 6 mois, 7 mois. Et je pense que ce serait peut-être une source d'instabilité pour Radio France de ne pas avoir de solution pendant ce temps-là. Donc prenons le temps, la loi elle est prévue pour être présentée, elle est travaillée, il y a des échanges, des tables rondes qui sont organisées sous l'autorité de la ministre, elle est prévue pour être présentée à la fin de cette année. Je pense qu'il faut une gouvernance stabilisée pour Radio France, y compris pour rentrer dans
donc,
cette discussion.
Pour être clair, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Vous pensez que le CSA doit nommer un successeur?
Je pense
de
que nous
Mathieu
devons
Gallet.
Respecter la loi et qu'aujourd'hui, j'ai aucun texte législatif qui me permettrait d'approuver cela. Par contre, le questionnement que pose la présidente est un bon questionnement. Pourquoi pas poser cela dans la discussion? Mais il faut une traduction législative.
Léa.
Autre chose, Christophe Castaner, vous voulez un rassemblement pour les européennes, un rassemblement qui aille de Danny Cohen-Bendit à Alain Juppé, avez-vous dit. Vous avez annoncé que le 24 mars prochain, ce serait le début d'une grande marche sur le modèle de celle qui a présidé à l'élection présidentielle. Est-ce que, à partir du 24 mars, vous attendez dans cette grande marche Danny Cohen-Bendit et Alain Juppé?
Non, je parlais de ce qu'ils portent comme idée, comme ambition, leur propre histoire et aussi leurs annonces ces derniers temps. Je ne parlais pas forcément des hommes. Ensuite, notre ambition, c'est de réhabiliter l'Europe. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'Europe, on en a besoin. Si on veut agir sur les questions d'environnement, sur les questions de fraude fiscale, c'est à cette échelle-là qu'on peut défendre nos emplois, notre économie. Mais pas d'une. Je ne regarde pas l'Europe de façon béate. Il faut la transformer en profondeur. Et j'en appelle à la mobilisation de toutes celles et tous ceux qui croient dans l'Europe pour qu'ils dépassent les chapelles des partis politiques, pour qu'on aille se battre dans ce combat.
Alors pardonnez-moi, il faut
l'Europe.
Qu'elle soit incarnée. Vous avez entendu Alain Juppé hier, qui reconnaît Emmanuel Macron un charme évident et dit partager en grande partie sa vision des choses. Est-ce que vous lui demandez clairement, est-ce que vous attendez clairement, parce que vous les avez cités, hein, c'est pas moi qui les ai cités, d'être de Danny Cohn-Bendit et Alain Juppé, qu'ils s'engagent à vos côtés dans une liste commune?
Christophe Castaner.
Mais je ne sais pas si l'un ou l'autre sont candidats. Et donc aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout
est-ce
en train de faire une liste. Bien sûr, si. Attendez, là, sans hésitation, leur capacité, leur savoir-faire, leur expérience serait à nos côtés une une force importante.
Est-ce que vous dites à Alain Juppé, viens prendre la tête de liste de notre liste future?
Non, parce que ce serait totalement prétentieux de ma part que de poser ça comme ça. Par contre, que Alain Juppé, avec son expérience, ce qu'il représente, puisse nous aider, nous guider, nous conseiller, nous éclairer dans la discussion, c'est essentiel. Mais ce qui compte en politique, c'est d'abord de construire le projet politique sur lequel vous allez au combat. La liste, les personnes, à mon sens, ça vient après. Nous n'en sommes pas à ce moment-là.
Patrick, bonjour.
Oui.
Vous nous appelez de Toulouse.
Oui, bonjour Nicolas Demorand. Merci d'avoir sélectionné ma question. Je vous confirme en tant qu'auditeur fidèle d'Inter depuis un peu plus de 35 ans que les matinales sont un moment indispensable pour beaucoup d'entre nous. Donc je milite, ainsi que votre précédent auditeur l'a souligné, pour un maintien de la qualité du service public. Je referme la parenthèse.
Merci.
Christophe Castaner, je voudrais vous interroger sur un point très précis en 15 secondes. J'ai un vrai problème de représentation, j'ai un vrai problème de représentativité de nos députés. Quand je vois que les deux prochains députés de la Nation, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois, seront élus vraisemblablement dans les prochains jours avec des taux d'abstention qui vont osciller entre 65 et 75%. C'est effarant, c'est désastreux pour la République, c'est douloureux pour la démocratie de notre pays. Et je m'interroge, et ça renvoie quand même à toutes ces derniers événements, on va dire, que nous avons vécu en 2017, y compris l'avènement du président de la République, dans la famille politique dont vous faites partie et auprès duquel vous avez beaucoup travaillé, sur la réalité véritablement politique et la conscience de nos concitoyens. Et j'en appelle aujourd'hui à eux en disant qu'on ne peut pas élire un député de la Nation en s'abstenant à 8 électeurs sur 10. C'est absolument indispensable. Il faut absolument revoter, il faut absolument retravailler. Mmh. Et c'est cet effort que je vous demande de participer, auquel je vous demande de participer.
Merci Patrick. Christophe Castaner.
Patrick a raison. Je pourrais presque m'en arrêter là. Un électeur sur 5 dans le Val-d'Oise n'a pas été voté. Ça ôte de la légitimité à l'élection même. Je pense que c'est une vraie anomalie démocratique. Je pense que la démocratie, et je m'adresse aux électeurs du territoire de Belfort, aux électeurs du Val-d'Oise, la démocratie a besoin de vous. Allez voter. Évidemment, je soutiens deux candidats, mais j'ai même pas envie de faire de la promotion pour tel ou tel. J'ai envie de dire, allez voter dans cette élection, c'est essentiel. Dimanche prochain, il y a un second tour. Déjà en juin, dans le Val-d'Oise, la députée a été élue avec seulement 34% de participation. Et là, on est un tout petit peu au-dessus de 20%. Ça fait un électeur sur 5. Ça n'est pas normal. Ça fait partie de nos obligations, celle de réhabiliter la politique. Et je sais que le chemin est encore long.
Mais est-ce que ce n'est pas un échec pour vous qui êtes au pouvoir depuis 8 mois, qui avez porté une dynamique au moment de la présidentielle et des législatives il y a 6 mois? Est-ce que ce n'est pas une forme d'échec ou de mea culpa que vous faites quand vous voyez ça, quand vous voyez que seul un électeur sur 5 s'est déplacé?
Moi, je suis prêt à faire un mea culpa. Je suis prêt à reconnaître que c'est un échec. Une chose est sûre, c'est que la plupart des gens, j'étais dans le Val-d'Oise cette semaine, j'étais à Belfort la semaine dernière, la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une élection. C'est-à-dire qu'en dehors de l'enveloppe qu'ils ont reçue, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés, mais c'est un échec collectif. C'est aussi pour ça qu'on a voulu que la première loi de cette mandature, ce soit de la loi confiance pour tenter de réhabiliter les politiques, quelle que soit leur couleur politique.
Et sur les résultats de ce premier tour, est-ce que vous tirez une conclusion, notamment concernant la droite?
Je crois qu'avec un électeur sur 5 seulement qui va voter, on connaît l'habitude des partiels, on ne peut pas tirer de conclusion sérieuse.
Clément, bonjour. Clément à Marseille.
Oui, bonjour. Bonjour France Inter. Bonjour Monsieur Castaner.
Bonjour.
J'ai une question à vous poser. On parlait des élections. Vous êtes maire de Fort-Calquier, vous avez été député, vous avez fait partie du gouvernement. Vous êtes aujourd'hui à la tête du Parti En Marche. J'aimerais savoir si la prochaine étape de cette ascension, c'était les municipales en 2020 à la mairie de Marseille.
Merci pour cette question, Clément. Christophe Castaner.
D'abord, je ne suis plus maire de Fort-Calquier. J'ai rendu mon mandat pour me consacrer à mes fonctions ministérielles.
Ça vous manque peut-être.
Fort-Calquier me manque, ma Provence
et Marseille, c'était la question.
Mais Marseille ne me manque pas, dès lors que je n'y vis pas. Non, cette question n'est absolument pas d'actualité pour moi. Léa Salamé m'interrogeait sur les européennes. Je peux vous dire que ça va consacrer beaucoup plus d'énergie la préparation des élections européennes
et
pour
après,
le mouvement.
Donc c'est pas un non, on n'entend pas un non.
Non, mais moi je
répondrai pas pour l'instant.
Voilà, c'est pas du tout d'actualité. Marseille fourmille de talents.
dont Jean-Luc Mélenchon.
À droite, à gauche, dont Jean-Luc Mélenchon et le maire actuel, et Renaud Muselier, et on sait comme il s'apprécie beaucoup. Voilà, tout ça, toute plaisanterie mise à part. Marseille, d'abord, n'a pas besoin de moi, mon nom circule. Je l'entends, je l'écoute, mais je ne suis pas candidat.
Mais donc, vous ne vous considérez pas comme un talent digne de vous mesurer au titan que vous venez de citer ?
Non, mais là, vous me titillez, ce serait sûrement un vrai plaisir.
Voilà.
Voilà Clément pour Marseille. Juste quand même, beaucoup de tweets, Christophe Castaner. 72 euros de moins chaque mois sur ma retraite. Monsieur Castaner, les salaires nets ont baissé ce mois-ci, les fonctionnaires touchent moins. 20 euros nets en ce qui concerne cet internaute. Non, là, je suis professeur, mon salaire a diminué de 50 euros ce mois-ci. Je suis salarié, mon net a baissé, etc., etc., etc. Il y a des dizaines de questions sur le sujet. Vous ne parvenez pas à convaincre, Christophe Castaner.
Non, mais 72 euros de baisse de CSG, c'est possible. Ça veut dire que vous avez un retraité qui a à 72 euros 5 000 euros de retraite pour être à 72 euros fois 1,7. Et donc, effectivement, on lui demande un effort. Je suis d'accord. L'enseignant, c'est certainement une erreur de calcul, et c'est vrai qu'il y a un décalage, ce sera rattrapé en février. Dans la fonction publique, personne ne perdra d'argent du fait de l'augmentation de la CSG. C'est compensé par l'État.
Gaspard, au Standard, vous dit qu'il est étudiant, qu'il a un budget très limité, qu'il lui arrive de payer son billet de cinéma jusqu'à 10 euros. Où en est-on dans le programme du Pass Culture ?
Il sera mis en place dans cette année, la ministre de la Culture l'a annoncé, une dotation de 500 euros pour aller vers la culture, effectivement pour faciliter l'accès au cinéma, aux loisirs aussi, parce qu'il ne s'agit pas de décider ce qui relève de la culture ou pas, mais de donner cette envie, cette appétence pour ceux qui, ou cet accès, parce que certains ont déjà cette envie et cette appétence, pour ceux qui ont des blocages financiers.
Allez, restez avec nous, Christophe.
Cette année
donc, voilà pour Gaspard. Restez avec nous, Christophe Castaner. Il est 8h56.